Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. L'urgence climatique, voilà un sujet dont je pourrais aisément vous parler à peu près tous les jours, tant il est vrai que les perspectives pour notre avenir collectif et celui de notre bonne vieille planète ne sont pas des plus réjouissants. Alors oui, c'est angoissant, c'est difficile d'avancer dans nos vies avec au-dessus de la tête cette menace grandissante. Mais il est nécessaire de s'y confronter, d'en parler, de trouver des moyens pour sensibiliser le plus grand nombre. C'est ce que font notamment deux campagnes de mobilisation en ce moment sur Internet. Elles s'appellent « On est prêt » et « Il est encore temps ». Elles sont portées par des youtubeurs et cette incarnation, justement, nous a fait réfléchir à plusieurs titres. D'abord sur une question toute bête. Pourquoi eux ? Sont-ils devenus des vecteurs plus puissants que les médias traditionnels pour toucher une large audience et notamment les plus jeunes ? Et ensuite, est-ce que les intérêts financiers qui lient pas mal de ces youtubeurs à de grands groupes industriels pas franchement écolo-compatibles ne sont pas un peu contradictoires avec la défense active du climat ? Voilà ce qui va nous occuper dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B.
On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi.
On est prêt à agir pour le climat.
D'ailleurs, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul aux commandes. Mon camarade Vincent Manilev m'accompagne dans cette émission. Salut Vincent.
Salut Thomas.
Vincent, il est spécialiste des questions liées à la culture web. Il viendra régulièrement dans Programme B dès que ces sujets seront abordés. Alors évidemment, on s'est interrogé pour savoir qui était le mieux placé pour nous expliquer la mise en place et les coulisses de ces deux initiatives. Est-ce qu'il fallait inviter un youtubeur, un membre d'une ONG ? Et bien, en creusant un peu la question, on s'est aperçu qu'à la charnière des deux campagnes, il y avait un garçon qui s'appelle Elliot Lepers, fondateur du collectif Le Mouvement, ancien compagnon de route des Verts et auteur de quelques campagnes numériques qui avaient connu un certain succès. On l'a donc invité, avec Vincent, à venir nous rejoindre et on lui a demandé pourquoi ils avaient fait appel à des youtubeurs.
Tous ces créateurs ont déjà des audiences très importantes et en fait sont des médias, beaucoup plus que des personnalités qui passent par les médias et qui ont la faculté d'être invités par des médias. Donc c'est aussi une manière de former des gens qui au quotidien parlent à des audiences qui en fait ne sont plus touchées par les médias traditionnels.
Oui c'est ça, c'est qu'ils ont aussi, ce sont des médias mais ce sont des médias avec une cible surtout qui effectivement échappe au spectre médiatique installé.
Ouais, je suis pas un expert, mais a priori c'est clair quoi. C'est clair qu'en tout cas cette génération des moins de 25 ou des moins de 30, si je veux m'inclure, consomme beaucoup moins de médias et en revanche consomme des heures de cette parole très spontanée et libre de ces créateurs qui s'expriment en leur nom, qui respectent pas de déontologie parce qu'ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de réglementation, mais qui voilà produisent une parole. Et donc, si on crée une campagne avec eux, eh ben, on leur permet de tenir une parole qui soit responsable et qui permette de contribuer à quelque chose de collectif. Donc, ça a un sens. Et puis derrière aussi, tout simplement, les médias n'en parlent pas assez. La plupart des médias traditionnels, en tout cas selon nous, ne traitent pas de ce sujet avec suffisamment d'importance. Et puis, c'est aussi beaucoup des créateurs qui sont assez jeunes et donc qui ont une sensibilisation qui est différente parce que c'est un truc aussi générationnel. Je pense, plus on est jeune, plus on va vivre longtemps avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et donc, je pense que ça se joue aussi. Et ça, ça se voit dans plein de sujets, mais notamment sur la manière de consommer, le rapport au travail. On voit que ces sujets-là du changement climatique nous impactent de manière très forte chez les moins de 30 ans. Donc, ça se joue là-dedans aussi.
Dans la foulée, Elliot Lepers dit « Il est encore temps », il y a une autre campagne qui s'appelle « On est prêt » avec des influenceurs célèbres comme Natou, Norman ou Enjoy Phoenix et d'autres un peu moins connus mais qui sont beaucoup plus identifiés du coup sur la défense de l'environnement. l'environnement. Pourquoi est-ce qu'il y avait la nécessité d'avoir une seconde campagne? Comment ça s'imbrique tout ça?
C'est marrant parce qu'on a commencé à travailler ensemble à la base. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à porter les deux paroles en même temps dans la même campagne. Et notamment le fait qu'il y ait, avec Il est encore temps, une collaboration avec des ONG, faisait fuir certains créateurs qui avaient peur d'une récupération politique. Parce que des structures politiques, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est des structures dont on doit se méfier, en fait, parce qu'on ne sait pas quels sont leurs intérêts et parfois, on se dit que ce n'est pas forcément les mêmes que les nôtres. C'est des gens qui sont des professionnels. Voilà, donc ça rejoint cette espèce de méfiance envers les corps intermédiaires qu'on voit à travers toute la société, qui nourrit aussi les zones les plus obscures de notre vie collective avec voilà, la propagation des fake news, le rejet des journalistes en général, quoi. Et donc, on a voulu, on a séparé ces campagnes qui ont été portées par des personnes différentes, mais en se coordonnant parce qu'on voulait pas que ce soit que ça ait l'air concurrent, parce que c'est pas concurrent. Et donc, on est prêt, qui s'adresse effectivement à un public qui est moins sensibilisé, un public aussi qui est plus jeune et qui est aussi beaucoup porté par des créateurs qui sont très très peu experts de ces sujets-là et donc qui ont un regard plus novice, et ça apporte une tonalité différente. Et puis derrière, on se concentre aussi beaucoup sur les solutions individuelles avec On est prêt. Mais, et c'est là que c'est assez fort, c'est qu'on arrive à chaque fois articuler avec des demandes politiques. Et donc on se contente pas de cette culpabilisation un peu mainstream qu'on entend souvent, de dire c'est les individus qu'il faut bouger. On arrive à dire oui, on peut bouger, mais d'ailleurs on est prêt, on montre qu'on est prêt à bouger, mais derrière, ça doit servir à créer une réaction au niveau politique, au niveau industriel.
Alors justement, on parlait d'état d'esprit des vidéastes quand vous les avez contactés, notamment au début, peut-être une peur de récupération de la part des ONG. Là, ces gros youtubeurs, c'est Norman, c'est Natou, etc., c'est Enjoy Phoenix. Quand vous les avez contactés, ils ont accepté facilement. C'était quoi un peu leur état d'esprit quand vous leur avez présenté ce projet?
C'est Magali Payen qui coordonne cette campagne et qui a contacté individuellement chacun de ses créateurs, avec l'aide de certains créateurs qui étaient avec nous depuis le début, comme Professeur Feuillage, qui est une chaîne YouTube très engagée sur l'écologie. Et les réactions étaient en fait souvent très très volontaristes. C'est-à-dire, tout le monde est concerné par ces sujets-là, tout le monde avait envie d'agir, mais avec la peur de mal faire, avec la peur de se tromper dans les sujets, dans les aspects techniques, avec la peur de effectivement pas être crédible parce que parfois leur mode de vie n'est pas forcément compatible avec les sujets qu'on va porter pendant un mois avec la campagne On est prêt. Et donc pour moi, c'était surtout un reflet de la contradiction qui traverse toute la société sur ces questions-là. C'est que personne n'est suffisamment bon, personne n'est jamais suffisamment exemplaire pour être légitime pour porter un discours sur l'écologie. Donc ça a été de les rassurer, de leur expliquer quelle était notre démarche avec On est prêt, de leur dire qu'on était, c'était inclusif et que justement, moins ils étaient exemplaires, plus leur parole était légitime, parce que plus elle ressemble à l'expérience que l'essentiel de la population a vis-à-vis de l'écologie. C'est qu'en fait, moi je pense que l'écologie nous met quand même systématiquement dans une situation d'échec, globalement, tel qu'on perçoit le discours majoritaire sur l'écologie. Parce qu'en finalement, ça nous montre un mode de vie que personne ne sait comment atteindre, sauf une frange... très très engagé, très très volontaire, vegan, qui ne prend plus l'avion et qui arrive à effectivement cocher toutes les cases. Mais sinon, et notamment si on a moins de moyens, si on a moins de revenus, si on a moins le choix de notre mode de vie vis-à-vis de notre travail, etc., en fait, ce qu'on nous raconte comme idéal écologique est quasiment inatteignable. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce que c'est que l'écologie pour que chacun puisse se sentir inclus et chacun puisse se sentir en situation de succès vis-à-vis de ça. Et puis derrière, ça veut dire aussi qu'on montre que c'est aussi fait pour les gens qui échouent et qu'il y a aussi de la place pour les gens qui n'arrivent pas à faire 100% de ce qu'on leur propose.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe chez certains des influenceurs justement qui soutiennent ces projets et qui eux travaillent main dans la main avec des entreprises qui sont très polluantes?
Oui, parce que effectivement, ces derniers jours, j'ai repéré quelques exemples. Donc après, effectivement, là encore, je tiens à dire que personne n'est irréprochable et que il y a des enjeux différents. Mais par exemple, Natou, au moment de la vidéo On est prêt, elle allait faire un tour en avion de chasse pour un partenariat avec une marque de smartphone.
Alors là, je me permets une parenthèse pour expliquer à tous ceux qui, comme moi, maîtrisent assez mal, voire pas du tout, la culture YouTube. Natou, c'est donc une YouTubeuse, une des plus suivies en France. Elle a 4,6 millions d'abonnés sur sa chaîne. Certaines de ses vidéos font plusieurs dizaines de millions de vues. Elle participe à On est prêt, vous l'avez compris. Et dans la foulée du démarrage de la campagne, elle a donc posté sur Instagram des images d'une opération promotionnelle, ce qui impliquait pour elle un voyage en avion de chasse, ce qui n'est pas super éco-friendly. Et ça lui a valu quelques critiques sur un possible double discours. Elle n'est pas seule. Dans ce cas, on peut noter chez d'autres youtubeurs des liens avec par exemple le groupe Coca-Cola qui certes affiche des ambitions écolo mais reste un énorme pollueur, etc. etc. Je ferme la parenthèse et je laisse Vincent terminer sa question.
On se dit, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne pourraient pas réfléchir plus à la façon de s'engager eux dans leur métier, dans leur profession avec les acteurs qui les sollicitent ?
J'ai pas forcément une réponse satisfaisante à ça. Parce que moi-même, je suis vraiment intéressé par cette question et je pense que c'est très complexe. Vous avez raison et tout ce que vous avez décrit est vrai. Et en revanche, moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant sur leur discours. Et en même temps, je pense que ça arrive à plein de gens, en fait. Et ça arrive à tout le monde d'être devant cette contradiction. Moi, ça m'arrive. Moi, je suis venu aujourd'hui en scooter parce que j'habite en banlieue. Donc après, je peux me justifier pendant des heures parce que aujourd'hui, c'était... J'ai de la fièvre depuis 3 jours. Mais après, je peux me justifier. Je suis quand même dans ma contradiction parce que j'aurais dû venir en vélo. Et quand je peux, je viens en vélo, quoi. Et il y en a plein des comme ça. Qu'est-ce que je fais en vacances à Noël? Je suis dans un grand débat pour savoir est-ce que je prends l'avion ou pas. Est-ce que je peux faire une campagne climat depuis septembre et derrière prendre l'avion pour aller au soleil cet hiver. Et mais j'ai pas envie de faire ça, mais c'est un sujet, quoi. Et c'est encore plus un sujet quand c'est un problème professionnel, parce qu'effectivement leur métier parfois dépend de collaboration avec des industries, et derrière ils vont être dans une démarche d'interpeller ces marques-là. Je suis complètement d'accord. Je pense en revanche que ces paradoxes sont essentiels et qu'on ne peut pas simplement les observer, quoi. C'est qu'on est obligé de les accepter parce qu'ils vont être avec nous pendant longtemps. Ils vont faire partie de nos vies, même avec tous les efforts qu'on veut, pendant de nombreuses années. Et je pense que ces paradoxes vont aussi dans l'autre sens. Quand on parle des véganes, par exemple, moi j'ai une question sur l'alimentation végane, parce que je pense que l'idéologie végane ne questionne pas la nourriture industrielle. En tout cas, c'est pas lié. Et je trouve que c'est un paradoxe, parce que je me demande, est-ce que plutôt que de dénoncer l'exploitation animale, et effectivement c'est pas bien de manger de la nourriture animale industrielle, est-ce que le sujet c'est pas plutôt de dénoncer l'industrialisation de la bouffe? Donc des paradoxes, il y en a plein. Sur la question des créateurs, moi je pense que il faut faire la part des choses et que ça va prendre du temps de changer. Et effectivement, moi j'aimerais bien qu'ils changent de vie et qu'ils changent de modèle économique, et je pense qu'à la fin, si on arrive à les convaincre de changer de modèle économique, c'est super. En attendant, si malgré leur modèle économique, qui est effectivement par plein d'endroits incompatible avec la vision de société qu'on essaye de porter et que moi j'essaye de porter, c'est malgré cette incompatibilité, ils sont conscients de la problématique et qu'ils essayent d'œuvrer à une solution, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Et je pense que surtout, c'est à chacun de faire ce avec quoi il est honnête et ce qui lui permet d'être sincère avec lui-même. Je pense que ça, c'est super important, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer ensemble. Et si on veut être majoritaire, si on veut être des millions à porter ce truc, il y aura des millions de paradoxes. Et moi, je suis prêt à les pardonner tous, et même à les assumer, parce que je pense que c'est la seule manière qu'on se réunisse derrière ce combat-là. Et je pense qu'en plus que... plus on parle ces paradoxes, plus on met des mots dessus, plus on arrive peut-être à se dire que à les changer, en fait. Et je pense qu'effectivement, ce qui est arrivé à Natou avec cet avion de chasse et les photos qui sont diffusées, ça l'a fait se questionner vachement, quoi. Je suis pas son porte-parole, je fais pas sa communication de crise, mais c'est un sujet qui potentiellement la prochaine fois qu'on lui propose un avion de chasse lui fait se poser la question, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est cette phrase de Gramsci qui est pour moi qui résume tout sur ce combat-là. Il faut qu'on soit intransigeant, c'est-à-dire qu'on soit très clair sur le projet de société qu'on essaie de construire et sur notre objectif, mais il faut qu'on soit tolérant, parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Et si on arrive à faire les deux, on va au bon endroit. Si on n'arrive pas à faire les deux, soit on sera ultra minoritaire, soit on perdra la bataille.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même, malgré tout ça, que ces liens commerciaux, financiers, soit un frein vers le passage vers l'autre étape qui est l'étape la plus cruciale, c'est-à-dire passer d'une démarche écolo centrée sur l'individu à une démarche centrée sur l'industrie, à une interpellation justement des pouvoirs publics et des pouvoirs financiers. Est-ce que ça ne peut pas représenter une barrière ?
Si, ça représente une barrière, mais on est tellement tôt dans la massification de ce sujet et en même temps tard par rapport à l'urgence, je pense qu'on est obligé de passer par là. Et en revanche, il n'y a pas eu d'obstacle chez les créateurs qu'on a contactés, quoi. Et il y en a plein qui ont vraiment envie d'être dans l'interpellation. Et justement, notamment parce qu'ils collaborent avec des marques qui, en fait, sont super saoulées de se dire que les marques avec lesquelles ils collaborent ne sont pas exemplaires. Et en fait, ils aimeraient bien que, justement, comme ils ont une relation de travail avec elles, ils aimeraient bien qu'elles fassent des efforts. Je pense, voilà, qu'il y a tellement d'individualité dans cette réflexion-là. Moi, j'ai évolué sur cette question. Et j'ai évolué en rencontrant des entreprises, notamment, en parlant avec des responsables de programmes de responsabilité sociale et environnementale de grandes entreprises. Et j'ai compris que le discours traditionnel de l'écologie, en fait, il se coupait, par exemple, des 25% d'employés en France qui bossent dans des grandes entreprises. Parce qu'effectivement, leur vie, de 9h à 19h tous les jours, elle est incompatible avec le discours des écolos. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut amoindrir ce discours. En revanche, je pense qu'il faut créer des portes pour que toutes les personnes qui sont aujourd'hui incompatibles, et il y en a plein, retrouvent des marches d'accessibilité vers cette grande transition.
Peut-être, moi, j'ai juste une dernière question, mais c'est parce que j'en ai entendu parler dans des tables rondes avec des vidéastes sur l'impact écologique de l'hébergement de ouais. vidéos. C'est simplement si c'était quelque chose auquel vous pensiez aussi, parce que c'est vrai que derrière l'hébergement de ces vidéos sur des serveurs à travers le monde, par un géant comme Google, ça a aussi une importance. C'est une question que vous vous posez aussi ?
Ouais. Moi, depuis 2015, je fais une application qui s'appelle 90 jours, qui est un coach qui permet de devenir écolo. Et des messages qui me disent non, mais en fait, il ne faut pas qu'on utilise le smartphone, donc votre appli, elle est nulle. J'en ai reçu plein. Et c'est vrai. Et voilà, c'est encore un paradoxe que j'ai pas réglé, de savoir est-ce qu'on utilise Internet pour changer le monde ou est-ce qu'on quitte Internet parce que c'est ça qui tue le monde, quoi. Il y en a plein, des trucs comme ça. Est-ce qu'on utilise un avion pour aller faire une conférence qui va permettre potentiellement de convaincre plein de gens ou est-ce qu'on prend pas l'avion parce que ça contribue au problème qu'on dénonce? Et c'est pour ça que le premier défi de On est prêt, c'est justement de travailler sur la pollution numérique. Il y a des choses qu'on peut faire, notamment supprimer les mails non lus qui sont stockés sur les serveurs, supprimer les photos qui encombrent nos disques durs et nos services de cloud. Ça permet d'alléger notre empreinte numérique. Ça ne suffit pas. En revanche, ça met un coup de projecteur sur ce problème-là. Et après, moi, je pense que ce qui permet de mobiliser les foules, dans une certaine mesure, on en a besoin. Et si tous les gens qui aujourd'hui produisent du contenu et arrivent à rassembler vont vivre dans la forêt, on n'a pas réglé le problème, quoi. Donc c'est encore une fois un paradoxe. C'est ce qui fait que ce sujet est si passionnant, parce que ça touche à la fois à l'intime et à ce qui nous ancre au plus profond dans nos racines et dans la terre, et à la fois au céleste et à l'intangible. Et nous, on doit faire l'élastique entre les deux, quoi. Et donc c'est toujours un exercice d'équilibriste. Et c'est pas très confortable. Donc, c'est ça qui aussi fait que le mouvement a du mal à devenir majoritaire.
Pour conclure, Eliott Lepers, c'est quoi la suite logique pour On est prêt, il est encore temps? C'est quoi la prochaine étape, concrètement?
Il y a déjà une prochaine marche, le 8 décembre. Et donc, un des défis de On est prêt, ça va être d'appeler à cette marche. Avec Il est encore temps, on coordonne toutes les ONG, tous les groupes citoyens qui organisent ces marches partout en France, avec des groupes locaux extraordinaires qui ont mis deux fois de suite dans la rue plus de 100 000 personnes pour le climat. Donc, c'est assez énorme. Donc, une prochaine marche. Le mouvement se mondialise en parallèle. Et puis, avec On est prêt, il y a la volonté de faire d'autres campagnes, si celle-ci est un succès, sur d'autres thématiques en lien avec des grandes causes, en mobilisant encore des youtubeurs. Avec Il est encore temps, on est dans la même réflexion, et notamment comment est-ce qu'on arrive à faire marcher ce genre de coalition, parce que c'est ça qui nous a intéressés, et c'est ça la partie un peu immergée de l'iceberg qu'on voit pas, mais c'est ça qui nous a beaucoup occupés depuis 2 mois. C'est de réussir à ce que tout le monde travaille main dans la main, et c'est super difficile parce que c'est des orgas qui sont pas programmés pour travailler ensemble. En revanche, on voit que quand on arrive à tous bosser ensemble, ça fait quelque chose de grand et ça construit un récit qui nous montre que on est en train d'avancer, quoi. Et je pense que c'est le plus important, c'est que malgré nos différences, on accepte que on peut pas tous se réunir derrière la même demande. Donc on accepte qu'il y aura différentes initiatives et il faut arrêter d'essayer de tout fédérer, de tout centraliser. C'est pas naturel, la centralisation. En revanche, on peut produire un récit derrière lequel on arrive tous à s'inscrire et qui nous rassemble. Et c'est là-dedans qu'on arrive à créer le mouvement qui permet de réagir à l'urgence, quoi.
On ajoutera pour terminer que si nous sommes tous effectivement contradictoires face à l'environnement, nos petites lâchetés à nous, nos petits paradoxes, pèsent bien moins lourd dans la balance du dérèglement climatique que les stratégies très réfléchies pour le coup des grands groupes industriels pour contourner la moindre contrainte écologique. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.